On ne rendra raison de ce que fut réellement Pierre si l'on ne rappelait pas ici qu'il était, par toutes ses fibres, attaché à la Réforme. Familier du livre, il a vécu pour la cause. Alors, dans le cadre et les délais qui nous ont été impartis à chacun, nous allons l'illustrer sous trois éclairages, mais qui n'épuisent pas sa personnalité multiforme. D'abord, par son engagement au sein des institutions protestantes de son Église, la Fédération protestante de France et l'Église réformée de France, la Pauvrette. Ensuite, grâce à son travail continu d'exploration minutieuse de la société de l'histoire du protestantisme français avec les œuvres qu'il nous a laissées. Enfin, du fait de ses racines huguenotes, Sévenol, en ayant mis son cœur et son âme au service du protestantisme, ne comptant pas son temps et ne ménageant pas sa peine. Sur les institutions protestantes, Pierre, je n'ai pas fait la recension du nombre d'assemblées, de conseils, de synodes nationaux, régionaux auxquels, pendant tant d'années, Pierre a régulièrement participé. Et je pense qu'il y a là, pour les chercheurs de demain, matière à faire l'inventaire de ces très nombreuses participations et à faire l'apport, l'analyse plus exactement, de tous ces rapports et apports. Et il conviendra, pour ce chercheur ou ces chercheurs, de reprendre dans les fonds qui sont conservés à l'Institut protestant de théologie tous les comptes rendus de cette période pour pouvoir mener à bien une recherche exhaustive. Pierre était un fin connaisseur des instances dirigeantes du protestantisme français, curieux de ses arcanes, familier des personnalités élues dans ses gouvernements, et il y a toujours fait résonner une voix originale, pétrie par les engagements forts de sa jeunesse. Membre très actif de la Fédération française des associations chrétiennes d'étudiants, participant à la distribution clandestine de témoignages chrétiens, il est d'abord devenu un géographe, spécialiste de l'aménagement du territoire et de la sociologie urbaine. Au début des années 60, sa curiosité le fit s'intéresser à la sociologie religieuse. À la Fédération protestante, il a contribué à la création de la Commission de sociologie religieuse, dont il a été un temps le secrétaire général, et il a participé au conseil scientifique du Centre de sociologie du protestantisme de Strasbourg. Pour beaucoup, c'est par l'histoire que l'on vient à la sociologie. Pour Pierre, c'est l'inverse. De la sociologie, il est passé à l'histoire, celle-ci ne représentant pas pour lui une chronique du passé, mais une source du futur. À partir des années 1970, il a consacré ses recherches à ce qu'il avait vécu pendant cette période de barbarie, à ce que le protestantisme avait connu et aux mutations qu'il allait par la suite connaître. Je ne sais combien de temps Pierre a passé à inventorier, à classer les archives de l'ERF et de la Fédération protestante, tout cela dans les sous-sols de la rue de Clichy, d'où il ressortait généralement couvert de poussière, mais heureux de ses trouvailles. Il est dommage, ou regrettable, que tout son travail soit devenu quasiment inaccessible aujourd'hui, depuis qu'il a été versé aux Archives nationales. À partir de ces découvertes, Pierre a entrepris son œuvre, on vient de le rappeler, en particulier donc sur la Seconde Guerre mondiale, sur Pomérol, sur la Fédé, sur Marc Bugner, sur René Courtin, sur la Cimade, sur le Chambon et sur le drame algérien. Tout le ramener à l'Église, aux Églises protestantes, au milieu des tragédies et des débats contemporains. Pierre et la SHPF. Peut-être parce qu'il y sentait une secrète correspondance avec son propre tempérament, Pierre se rendait souvent au 54 rue des Saints-Pères, où il prenait plaisir, là aussi, à investiguer les fonds. Il a entretenu des relations privilégiées avec cette vieille dame pendant un demi-siècle. Aujourd'hui, la bibliothèque de la société compte 35 écrits de Pierre. Le bulletin de la SHPF, devenu aujourd'hui revue, le bulletin a bénéficié de la primeur de ses travaux. Je ne vais pas évoquer devant vous les magnifiques articles qu'il nous a laissés, mais effectivement, l'analyse de ces articles, riches de matériaux, de pensées, montre que le Dauphiné et la Seconde Guerre mondiale ont été les axes essentiels de ces articles. Dans les colloques organisés par la Société de l'Histoire, il a tenu les mêmes apports. Lorsqu'il est venu parler dans la chaire du désert au Massou Béran, de même, cette allocution éblouissante qui est gravée dans les feuilles du bulletin de la société montrait la montée des périls pour le protestantisme français à la veille de la révocation et aujourd'hui. Participant activement au colloque des musées protestants qu'il avait contribué à créer en 1986 avec celui à qui nous pensons aussi aujourd'hui, son ami, notre ami Jo Ludwig, beaucoup gardent en mémoire ses conclusions fortes, parfois provocantes, qui étaient attendues et surtout redoutées. Plein de passion, débordant d'énergie, il ne comptait pas sa peine pour défendre et conserver les éléments du patrimoine protestant. En raison de son opération sur les temples endogés d'oubli, la Société de l'Histoire du protestantisme français a honoré Pierre en 1985 avec le prix Malan. Et le rayonnement des amis de Félix Neff, de Frayssinière, du temple de Dormillouse, doivent énormément à ses initiatives. Bon, c'est évidemment avec le musée de Poitlaval que Pierre a mis en pratique ses réflexions sur les musées protestants et leur rôle. Mais tout vient d'être dit par M. Jean Guibal excellemment, et je n'y reviendrai pas. Mais combien de jours, combien d'heures a-t-il consacré à cette œuvre ? Seul Christiane pourrait nous le dire. Ces quelques souvenirs rassemblés avec ceux de vous tous permettent de penser que Pierre aurait été enthousiaste à l'idée de fédérer les multiples intelligences du Dauphiné en une association d'histoire des protestants. L'amour du Dauphiné ne le détourna cependant pas des Cévennes, où ce fils, petit-fils, neveu de 6 pasteurs, se retrouvait pleinement lui-même. L'héritage inaliénable de ses aïeux, transmis austèrement de génération en génération, à sa source, au-delà de l'histoire, dans les entrailles de ces montagnes sauvages des Cévennes. Alors, comme bien des Cévenols, Pierre avait le caractère reboussier, ce qui signifie être contre. Mais ce n'était pas par principe, c'était par sagesse. On attend, un Cévenol attend d'être sûr avant de se prononcer favorablement. Indépendant, tenace, fidèle, dévoué, Pierre aimait retrouver régulièrement sa thébaïde crucicadérienne. De sa terrasse, il était heureux de faire découvrir à celui qui montait les paysages des serres et des vallas, et au-delà, les panoramas jusqu'aux Alpes et à la Méditerranée. Tenant à cette terre, par les cimetières et les sillons, manifestant plein d'allégresse et d'ardeur à faire visiter à côté de sa vénérable maison de famille, de Sainte-Croix de Caderle, le temple installé depuis 1802 dans l'ancienne église romane du XIIe siècle, où les fouilles avaient permis de découvrir un sarcophage mérovingien. Terrains en friche, culture abandonnée, magnanerie lézardée, il savait que cela n'aurait qu'un temps et que son pays allait se renouveler. L'enracinement dans le passé lui permit d'exister et de rester tourné vers l'avenir. La renaissance cévenole, il l'annonçait. Conservant un attachement inébranlable à la patrie de ses ancêtres, il venait goûter, là-haut, les joies simples du bonheur familial et celles des rencontres. Conteur infatigable, les épopées comme les légendes nous laissaient toujours sous le charme. Nous entendons encore sa voix chantante et son rire éclatant. Nous revoyons ses yeux pétillants de malice derrière ses lunettes. Pierre avait l'amour de la vie généreusement. Nous n'avons pas fini de converser avec lui. Thank you.